Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 29 mars 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Israël est la seule entité dont la sécurité préoccupe vraiment les États-Unis, a dit le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le djihad islamique de la Palestine a renouvelé la proposition d'armer le peuple palestinien. Et en France, les manifestations se poursuivent contre la réforme des retraites du président Macron. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Mardi 28 mars, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a souligné dans un tweet que l'inquiétude du gouvernement américain face à l'aggravation de la crise dans les territoires occupés de la Palestine causée par les présumées réformes judiciaires du Premier ministre Benjamin Netanyahou montre qu'Israël est la seule entité dont la sécurité préoccupe vraiment les États-Unis. La Maison-Blanche a exhorté fortement les dirigeants israéliens à faire des concessions au plus vite pour résoudre la crise qui dure depuis des semaines dans les territoires occupés de la Palestine sur les réformes judiciaires très impopulaires de Netanyahou. Le parrain d'Israël, préoccupé par l'aggravation de la crise, exhorte ses dirigeants à trouver rapidement un compromis, estimant que c'est la meilleure voie à suivre pour Israël et ses citoyens, a écrit Kanani sur son compte Twitter. C'est la seule entité pour laquelle les États-Unis s'engagent sincèrement, a-t-il ironisé. Le lundi 27 mars, le porte-parole de la diplomatie iranienne a également fait allusion aux manifestations de mars et a condamné les États-Unis et l'Union européenne pour avoir soutenu un régime fallacieux fondé sur l'occupation et l'apartheid au nom de la démocratie. Des dizaines de milliers de personnes sont au rendez-vous toutes les semaines dans diverses villes israéliennes depuis que Netanyahou a annoncé son projet de réforme judiciaire controversé en janvier. Des échauffourées éclatent la plupart du temps entre les manifestants et les policiers et la tension est à son comble. Des centaines de milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées samedi 25 et dimanche 26 mars à Tel Aviv pour protester contre la réforme judiciaire. Avant une semaine cruciale qui devrait être marquée par d'autres dispositions législatives et de nouvelles grandes manifestations. Le premier ministre israélien avait prétendu que le soi-disant plan de réforme judiciaire empêcherait les tribunaux d'outrepasser leur pouvoir. Selon les observateurs, ce plan permettra à Netanyahou d'échapper à son procès pour corruption. Netanyahou a annoncé lundi soir qu'il gelait temporairement le projet de loi qui modifierait la composition du système judiciaire israélien. Pourtant, il s'est dit déterminé à faire passer le plan de réforme. Pour leur part, les manifestants israéliens ont juré de ne pas quitter la rue tant que le projet de réforme judiciaire ne serait pas annulé. le fossé se creuse davantage dans la société israélienne entre les partisans du régime d'extrême droite en place qui allèguent que des changements judiciaires sont nécessaires et le nombre croissant de personnes opposées au plan de Netanyahou. Le ministre de la Sécurité nationale du cabinet de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir, veut former sa propre force armée. Ben-Gvir a demandé au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'accepter la formation de la force à l'avenir après avoir menacé de quitter le cabinet, ont rapporté mardi 28 mars les médias israéliens. La force est censée recruter des colons israéliens extrémistes, entre autres, et relève directement de Ben-Gvir au lieu du commissaire de police du régime israélien. Le ministre a fait circuler une lettre signée par Netanyahou parmi les médias dans laquelle le premier ministre est engagé à soulever la question de la formation d'un tel organe lors de la prochaine réunion du cabinet. Réagissant à la décision de Ben-Gvir de former sa propre force armée, le mouvement du djihad islamique de la Palestine a renouvelé sa proposition d'armer le peuple palestinien. La semaine dernière, le mouvement du djihad islamique de la Palestine a présenté ses initiatives aux représentants d'autres groupes de résistance. Le mouvement a soumis des rapports de sécurité et de reconnaissance, confirmant que le processus d'armement des colons à proximité de la Cisjordanie a déjà commencé et comprend la fourniture à chaque colon de deux genres d'armes individuelles et automatiques et d'une grande quantité de munitions. Les colons bénéficieront aussi d'un programme de formation très intensif. Le djihad islamique de la Palestine a estimé que la seule réponse à l'armement des colons et des gangs à la solde de Ben-Gvir est de relancer le plan présenté aussi par le mouvement l'année dernière et qui est destiné à mettre des armes à la disposition du peuple palestinien et la distribution d'armes à tous ceux qui peuvent les porter et les utiliser pour se défendre. Dans le cadre de la protestation des Français contre les politiques économiques du président français Emmanuel Macron, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, notamment à Paris, à Lyon et à Marseille. À Paris, l'accès à la tour Eiffel était fermé au public mardi 28 mars, au 10e jour de mobilisation contre le projet gouvernemental. La police a également renforcé les mesures de sécurité dans la capitale sous prétexte que les manifestants auraient l'intention de radicaliser la situation. À Lyon, la police a bloqué certaines rues de la ville par des barrières. Les sources d'information ont fait part de la violence policière dans cette ville, soulignant que les vitrines de magasins et de certaines institutions financières ont été brisées par des manifestants. Dans ce drapeau, le parti politique français Patriote a mis l'accent sur le fait que les manifestations se poursuivraient, qualifiant le projet du gouvernement français de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans d'illégitime. Le parti Patriote a mis en garde le président contre la colère populaire croissante, précisant que le gouvernement devrait entendre la voix des manifestants. À Marseille, des manifestants se sont rendus sur les rails de la gare Saint-Charles. En début d'après-midi, entraînant une interruption du trafic, ont annoncé les sources d'information. Le ministère de l'Intérieur a averti les manifestants contre les mouvements violents, annonçant le déploiement de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Plus de 1 000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux, a-t-il poursuivi. Des organisations d'avocats, de magistrats et de défense des droits humains ont dénoncé des arrêts pris en catimini par la préfecture de police de Paris pour interdire les rassemblements nocturnes contre la réforme des retraites. La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'effondre de 6 points en mars par rapport à février, avec 28% d'opinions positives, selon deux sondages publiés lundi 27 mars. D'après les sondages, il s'agit du plus bas niveau d'approbation atteint par le chef de l'État depuis novembre 2018, au début du mouvement des Gilets jaunes. Le président français a été critiqué pour avoir refusé d'augmenter les impôts des plus riches. Plusieurs experts ont également décrit son projet de réforme des retraites comme un fardeau sur le dos des travailleurs. L'Algérie a annoncé mardi 28 mars que le président Abdelmadjid Tebboune avait accepté une invitation de son homologue italien Sergio Mattarella pour participer au Forum pour le dialogue en Méditerranée qui se tiendra début novembre à Rome. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la présidence algérienne indiquant que Tebboune a eu aujourd'hui, mardi, un entretien téléphonique avec Sergio Mattarella, président italien, qui lui a présenté ses vœux, ainsi qu'au peuple algérien, à l'occasion du mois béni Ramadan. Le communiqué indique que les deux présidents ont discuté de la 9e édition du Forum de dialogue en Méditerranée, le président ayant accepté l'invitation de son homologue italien à y participer. Tebboune et Mattarella ont exprimé, lors de cet entretien, leur satisfaction quant à l'état d'avancement de la coopération bilatérale, soulignant la nécessité de promouvoir la bonne entente et l'enracinement de l'amitié entre les deux pays. La présidence algérienne a conclu son communiqué en indiquant que les deux présidents ont également passé en revue les dossiers d'intérêt commun, tant au niveau régional qu'international, et qui s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt de la stabilité de la région. La 9e édition du Forum de dialogue pour la Méditerranée se tiendra à Rome du 2 au 4 novembre à l'initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de l'Institut italien pour les études de politique internationale. Cette nouvelle édition abordera les questions relatives à la sécurité, à la migration, au changement climatique et à la sécurité alimentaire, ainsi que d'autres questions relatives à l'évolution de la situation depuis la 8e session qui s'est tenue en décembre dernier. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Royaume-Uni, nouveau record de l'inflation des produits alimentaires. L'inflation des prix des produits alimentaires britanniques a de nouveau augmenté en mars 2023 pour atteindre le niveau record de 17,5%, infligeant encore plus de souffrance aux consommateurs qui luttent contre une crise du coût de la vie, ont révélé mardi 28 mars les données de l'Institut Kantar. L'Institut Kantar a déclaré que les prix augmentaient le plus rapidement sur des marchés tels que les œufs, le lait et le fromage. Selon Kantar, les ménages britanniques doivent maintenant payer 837 livres, 1028 dollars, de plus pour leur achat annuel s'ils ne modifient pas leur comportement pour réduire les coûts. C'est encore une mauvaise nouvelle pour le public britannique qui subit pour le 9e mois une inflation à deux chiffres des prix de produits alimentaires, a déclaré Fraser McEwitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar. Les données de Kantar pour le mois de mars fournissent l'instantané le plus récent de l'inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni. Les données officielles britanniques publiées la semaine dernière ont montré que l'inflation globale des prix à la consommation a augmenté à 10,4% en février, ce qui a entraîné une hausse des prix de la nourriture et des boissons. L'inflation globale pour les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées a atteint 18,0%, soit le taux le plus élevé depuis 1977. Pendant ce temps, des recherches distinctes du BRC indiquent également une augmentation des prix des denrées alimentaires avant les vacances de Pâques. Des données distinctes publiées mardi par le BRC montrent que la flambée des prix des denrées alimentaires a poussé l'inflation globale dans les magasins britanniques à son niveau le plus élevé depuis au moins 18 ans en mars 2023. En raison de ces développements, la Banque d'Angleterre a augmenté de 25 points le taux d'intérêt interbancaire qui est directement lié au remboursement de prêts de millions de propriétaires britanniques afin de freiner l'inflation. Il est prévu que le taux d'inflation au Royaume-Uni baisserait de 3% cette année, mais il n'y a toujours aucun signe de réduction des prix. Les experts estiment que la crise du coût de la vie se poursuivra pendant au moins les 5 prochaines années. L'augmentation sans précédent d'inflation et du coût de la vie au Royaume-Uni ont placé l'île dans les pires conditions économiques au cours du dernier demi-siècle. Dans ce drafin, le premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que les Britanniques ne devraient pas s'attendre à ce que le gouvernement soit la solution à tous leurs problèmes financiers, soulignant que les défis économiques ne disparaîtront pas cette année.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat de Presse TV français. Nous sommes le lundi 27 mars en direct depuis la capitale iranienne, mais également depuis le studio de Presse TV français. Le jeudi 23 mars, les forces américaines ont mené des raids aériens contre l'est de la Syrie. En réponse, il y a eu des attaques contre les bases américaines à Deir ez-Zor. Qui a été derrière les attaques? Quels sont les objectifs que poursuivent les Américains à travers ces attaques? Donc, selon un communiqué des États-Unis, ces attaques ont été menées sous la direction du président américain Joe Biden. Quels sont les objectifs? Que cherchent les Américains à travers cette présence illégale, mais également à travers ces attaques poursuivies? Nous allons répondre à ces questions avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite.
L'Iran promet une réponse rapide à toute attaque contre des bases mises en place à la demande de la Syrie. Réagissant aux récentes évolutions syriennes, un haut responsable de la sécurité iranienne a averti que la République islamique d'Iran réagirait rapidement à tout prétexte d'attaque contre des bases en Syrie, établies à la demande du gouvernement syrien, dans le but de lutter contre le terrorisme. Kevan Khosravi, le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, a lancé cet avertissement samedi 25 mars, après que des responsables américains ont accusé l'Iran d'être impliqué dans des attaques contre des bases américaines illégales sur le sol syrien. Selon la chaîne d'information iranienne en langue arabe Al-Alam, plus de 20 roquettes auraient été tirées samedi contre deux bases illégales appartenant aux forces d'occupation américaines déployées dans l'est de la Syrie. La chaîne de télévision a précisé que les cibles étaient des avant-postes américains basés près du champ pétrolifère d'Al-Omar et du champ gazier de Conico dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Les attaques sont intervenues en réponse à une frappe menée par les forces américaines contre une installation dans le nord-est de la Syrie, à la suite d'une attaque de drone jeudi qui a tué un entrepreneur américain et blessé 6 autres Américains. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a prétendu que sous la direction du président Biden, avait ordonné les frappes précision aériennes dans l'est de la Syrie contre des installations utilisées par des groupes, selon ses mots, affiliés au corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. M. Khosravi a déclaré que les États-Unis tentaient de porter des accusations contre l'Iran en poursuivant une politique de jeu du blâme et en éludant, dans une fuite en avant, les conséquences de son occupation illégale d'une partie du territoire syrien. Ce responsable de la sécurité a ajouté que de tels récits et arguments avancés par les États-Unis ne tiennent pas debout du tout. Washington ne peut pas attribuer la confrontation naturelle et légale des pays qu'il occupe avec les forces militaires américaines à d'autres pays, en faisant recours à la création des crises artificielles et en mentant, a souligné le responsable de la sécurité iranienne. Il a déclaré que l'Iran avait subi des coups énormes dans la lutte contre le terrorisme et dans l'établissement d'une sécurité durable en Syrie, ajoutant que Téhéran s'oppose et contrecarre toute action qui met en péril la stabilité de ce pays. Le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale iranien a déclaré que les États-Unis avaient joué un rôle dans la création et le soutien de groupes terroristes Daesh en tant que moyen par procuration pour donner suite à leurs objectifs politiques intéressés en Syrie et en Irak. Épaulées par leurs mercenaires, les forces américaines basées en Syrie se livrent à un pillage du pétrole, du gaz et du blé. Selon l'agence syrienne Sana, les soldats américains installés au nord-est syrien transportent du pétrole à bord de camions-citernes. Les États-Unis ont également adopté la loi César en juin 2020 contre la Syrie, dont l'objectif serait d'affamer et d'humilier le peuple syrien. Cette loi porte des sanctions contre la Syrie et le gouvernement démocratiquement élu de Bachar Assad. Toutes les personnes, entités ou entreprises qui apportent une aide financière à Damas tombent sous le coup de cette loi, adoptée à l'époque de Donald Trump. la Banque centrale de la Syrie est considérée par les Américains comme un établissement de blanchiment d'argent.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons deux invités avec nous, mais nous allons commencer avec Maître Morgan Lotz, iranologue et juriste en droit international. Maître, bonjour et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Dans un premier temps, à votre avis, quel est l'objectif que poursuivent les Américains à travers ces attaques illégales? Ils prétendent alors cibler des bases militaires ou des bases affiliées aux forces de la Révolution islamique, des corps des gardiens de la Révolution islamique, mais des rapports prouvent bien que ça a été des centres ruraux, un centre de céréaliers, un centre civil. Donc quel est l'objectif à votre avis?
Oui, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble de l'équipe de Presse TV, mon collègue Monsieur Luc Michel, ainsi que les téléspectateurs. Donc, pour répondre à votre question, oui, les Américains commettent des actions illégales à l'encontre de la population syrienne, mais également la population irakienne, et frappent des bases de la résistance syrienne, comme c'était le cas ce vendredi 24 mars, où deux bases américaines ont été ciblées dans la région de Deir ez-Zor, donc ça se situe dans l'est de la Syrie, et c'est à proximité de sa frontière avec l'Irak. Donc un certain nombre de soldats américains ont été blessés, plus précisément dans les bases de Green Village, Neko et Al-Omar. Donc cela fait suite à des frappes américaines sur des positions de la résistance syrienne, et cette résistance syrienne, c'est celle-là même qui avait combattu contre Daesh. Donc moi je pose deux interrogations aux Occidentaux et particulièrement aux Américains. D'une part, les forces américaines ne sont pas les bienvenues en Syrie et ne se sont imposées illégalement, ce qui fait que la présence militaire américaine est une occupation, ce qui est tout à fait illégal aux yeux du droit international et même de la morale humaine. Et d'autre part, si les États-Unis luttent vraiment contre le terrorisme, comme ils l'affirment, comment se fait-il qu'il soit encore là après la défaite de Daesh? Et je pose une grosse interrogation. Pourquoi Daesh se reconstitue-t-il dans les zones occupées par les Américains? Il suffit de lire un article paru dans Le Monde diplomatique en décembre 2021 qui illustre bien la résurgence de Daesh. Donc cette excuse de dire qu'il frappe des bases militaires est totalement fausse, puisque l'on voit que les victimes ont lieu dans des zones civiles et majoritairement rural, et également contre des positions de la résistance syrienne. Donc, les États-Unis ont pour habitude d'accuser l'Iran de tous les maux.
Oui.
Ils présentent la mort d'un entrepreneur. Alors, ils citent un entrepreneur, mais je ne vois pas ce qu'un entrepreneur américain pourrait faire dans l'est de la Syrie, disons plutôt un mercenaire américain. Ils citent cette mort comme la raison de leur bombardement. Moi, je souhaiterais rappeler la réalité des faits en quatre points. J'ai posé quatre questions et les Américains sont bien incapables d'y répondre. Mmh. Première question, c'est que font les soldats américains dans les régions pétrolifères de la Syrie?
Exactement.
De quel droit y sont-ils, puisqu'ils n'ont jamais été conviés à y venir, contrairement aux forces armées russes et iraniennes qui ont été invitées à intervenir par le gouvernement syrien, ce qui a pour conséquence que leur présence militaire est parfaitement légale au regard du droit international. Troisième question pour les États-Unis, pourquoi les États-Unis ressuscitent-ils les groupes terroristes dans la région alors qu'ils prétendent les combattre?
Oui.
Et enfin, quatrième et dernière question, et là on comprendra pourquoi les Américains bombardent des zones rurales, c'est pourquoi les États-Unis exploitent-ils les ressources syriennes, à savoir le pétrole, le gaz, le blé, et pourquoi exportent-ils ces ressources hors du pays sans même demander l'autorisation des Syriens?
Exactement.
Voilà, ces quatre interrogations qui illustre bien, en fait, qui appelle les réponses qui vont découler d'elles-mêmes sur la présence illégale des Américains.
Exactement.
Donc les zones rurales qu'ils bombardent, ce sont des zones qu'ils exploitent, qu'ils pillent, en fait, parce qu'ils pillent les ressources syriennes qui appartiennent à la Syrie et au peuple syrien, et ils bombardent des groupes de résistance qui, d'une part, ont combattu contre Daesh. On sait que Daesh a été financé et formé par les Occidentaux et notamment les Américains. Et voilà, ils bombardent des zones rurales où les Syriens ont décidé de ne plus se laisser faire, de ne plus être humiliés et oppressés par une puissance étrangère qui n'a rien à faire là, autant sur le point du droit international que sur le point moral. Et donc ces frappes illustrent bien la position d'occupation que tiennent les États-Unis.
Exactement.
D'ailleurs, les médias européens n'en ont absolument pas parlé, ce qui est assez révélateur.
Merci beaucoup pour vos explications, cher maître. Merci également pour les quatre questions très importantes que vous avez évoquées. Nous allons maintenant entendre l'analyse de Luc Michel à ce sujet. Luc Michel, bonjour. Vous êtes géopoliticien depuis Bruxelles. Quelle est votre analyse sur ces attaques? Est-ce que vous avez entendu aussi l'analyse de maître Lotz? Donc, quel regard portez-vous sur ces événements?
Mon interlocuteur a toujours raison. Le seul but des Américains, c'est d'occuper la Syrie et de piller ses ressources en blé, en pétrole et en gaz. Et là, l'occupation de la Syrie faite par les USA et par la deuxième armée de l'OTAN, qui est l'armée turque. Et les gens de Daesh, ce sont des auxiliaires des armées américaines. Ce ne sont pas des adversaires. Ils servent le prétexte à l'ingérence. C'est la même chose qui se passe à l'Eurosaint et en Afrique.
Et Monsieur Michel, à votre avis, cette présence illégale qui a été à maintes fois contestée par le gouvernement syrien, par ses alliés, par quelques instances internationales, est-ce qu'on verra enfin une fin à cette présence illégale? Monsieur Michel, je pense que la connexion a été coupée avec Luc Michel. Mes collègues essaieront de rétablir la connexion. En attendant, Maître Lotz, vous avez évoqué les quatre questions principales à poser aux Américains, notamment en ce qui concerne le pillage des ressources et surtout du pétrole syrien. À maintes fois, le gouvernement syrien et ses alliés ont demandé aux forces américaines d'être expulsées et de se retirer du territoire syrien, mais ça n'a pas été le cas. Jusqu'où cette présence illégale, à votre avis, se poursuivra?
Bien, cette présence se poursuivra tant que les Syriens et les Irakiens n'auront pas, excusez-moi le terme, mais dégagé les Américains de la région. Vous savez, les Américains, ce sont des gens assez spéciaux qui pensent être toujours dans la justice, dans la vérité. Ils pensent que leur nation est élue par Dieu. C'est ce qui ressort des discours des présidents américains, notamment George Bush, pour justifier sa guerre en Irak. Donc ce sont des gens qui se pensent être tout permis, qui pensent être les meilleurs, les plus justes et les plus intelligents. Mais dans la réalité, c'est totalement différent. Je vais citer un exemple personnel. Quand j'étais au lycée, j'avais un camarade de classe qui était texan. Il venait de Dallas. Alors sa maman était originaire des Philippines et son papa était de Dallas au Texas, aux États-Unis.
Oui.
Et il m'avait dit un jour, quand il a quitté les États-Unis, puisque voilà, son papa avait été muté dans ma région pour travailler, et il m'a dit, là, j'ai ouvert les yeux sur les États-Unis. En fait, on est un pays de salopards. Excusez-moi l'expression, mais c'était ce qu'il m'avait dit. Mmh. Il avait compris, en fait, cette rancœur vis-à-vis des États-Unis, qui est un pays qui commet les pires massacres, voire même des génocides, qui soutient les pires actions, et qui se targue d'être un pays démocratique, défendant les droits de l'homme. Il suffit de voir comment ils se traitent entre eux, ne serait-ce qu'entre Afro-Américains, et WASP, hein, donc les WASP, ce sont les White anglo-saxons protestants. Il suffit de voir comment ils se traitent économiquement. Il suffit de voir la misère aux États-Unis. C'est un pays où les armes à feu gangrènent partout. C'est un pays qui s'est construit sur la violence, sur la conquête et la domination. Ça a été ça, 200 ans d'histoire américaine, c'est ça. C'est un pays qui s'est construit sur leur guerre civile, hein, la fameuse guerre de sécession au XIXe siècle. Donc ce sont des gens qui ne sont pas capables de penser en matière de respect, en matière de partage équitable avec les autres, puisque ça ne rentre pas dans leur conception intellectuelle. Leur conception intellectuelle, c'est écraser l'autre pour dominer, c'est piller, et c'est vraiment le rapport de force. Les Américains ne comprennent que le rapport de force. Vous voyez bien, le droit international, il l'utilise à tort et à travers pour justifier n'importe quelle sanction. Mais pourtant, le droit international interdit de cibler une population et de la priver de médicaments ou de ressources alimentaires. Donc, c'est un droit à géométrie variable chez eux. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie, tout simplement. Et je dirais même du cynisme. Donc, comment cessera l'occupation illégale américaine en Syrie? Eh bien, ce sera à coups de missiles sur leur base et jusqu'à ce que le dernier Américain parte en courant parce qu'il n'a plus les moyens de rester sur place. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Ce sont des gens qui ne comprennent que le rapport de force.
Exactement. Luc Michel, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous? Non, d'accord. Maître Lotz, vous avez évoqué cet impérialisme, cet unilatéralisme américain vis-à-vis des autres pays. On l'a vu également vis-à-vis de l'Iran avec le retrait unilatéral de Donald Trump de l'accord nucléaire. On l'a vu dans le cas syrien, dans les autres cas de la région, mais également ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et ces aides militaires instantanées et infinies des Américains envers l'Ukraine pour faire perdurer la guerre. Donc, à votre avis, quelle est la solution en fin de compte pour faire face ou pour lutter cet impérialisme et cette envie d'allumer des guerres dans le monde entier et de les poursuivre juste pour les intérêts économiques, militaires et diplomatiques américains?
Vous savez, les populations européennes notamment commencent à être agacées par la guerre en Ukraine et l'aide apportée aussi bien par les différents pays européens que par les États-Unis. On nous dit quand les manifestants français réclament que les salaires soient augmentés, réclament que les hôpitaux soient financés correctement parce que notre système de santé, qui fut un temps le meilleur du monde et qui aujourd'hui est en train de s'effondrer complètement, quand les Français ou les Européens demandent ça, les gouvernements répondent « on n'a pas d'argent, ça coûte trop cher ». Par contre, le lendemain, on verse 1 milliard pour un pays africain, on verse 2 milliards pour l'Ukraine. On livre des armes à l'Ukraine, alors on ne sait pas d'où elles sortent, puisque nos stocks sont vraiment à leur plus bas niveau. Même avant la Première Guerre mondiale, on n'a jamais connu ça. Donc les gens ne comprennent pas ça, et c'est la même chose aux États-Unis, si l'on en croit les informations qui nous parviennent. Il y a de plus en plus de manifestations pour s'opposer à la guerre, et même des élus américains qui ne comprennent plus pourquoi on surarme l'Ukraine. On lui verse des milliards et des milliards qui ne sont pas suivis. Hein. Donc ça veut dire qu'on donne de l'argent à des gens, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Est-ce que ça va vraiment à la population ukrainienne pour l'aider, ou est-ce que ça finit dans les poches d'oligarques ou de personnes corrompues? Puisque avant la guerre en Ukraine, les médias occidentaux présentaient l'Ukraine comme un des pays les plus corrompus au monde, ce qui est vrai. Et là, d'un coup, c'est le pays démocratique, c'est le rempart contre le fascisme qu'il faut aider. Ce n'est pas du tout ça. Les Américains, eux, profitent de ça, et beaucoup de gens se rendent compte que dès qu'il y a une guerre ou des tensions géopolitiques, il y a derrière les Américains pour tirer les ficelles. Donc il y a une certaine rancœur qui commence à monter vis-à-vis des États-Unis, parce que vous savez, les États-Unis font la guerre chez les autres. Par contre, qui est-ce qui récupère les vagues migratoires de réfugiés? Qui est-ce qui récupère les problèmes? C'est les Européens. Ça, les Européens commencent seulement maintenant à le comprendre. Il serait temps. Parce que depuis une dizaine d'années, on a vu affluer en Europe des vagues migratoires venues d'Afrique, du Moyen-Orient. On a eu beaucoup de Syriens. Et pareil, les gens se rendent compte qu'il y a un double discours, puisque les Syriens n'ont pas été accueillis, ils n'ont pas reçu d'aide lorsqu'ils sont venus dans la décennie 2010 en Europe. Par contre, les Ukrainiens sont tout de suite aidés. Donc les gens commencent à comprendre tout doucement que derrière l'Ukraine, il y a un intérêt. Et l'intérêt, quel est-il? C'est pour les Américains de renflouer leur économie qui est très très mal au point, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire. Ils ne sont plus la première puissance mondiale, leurs banques font faillite. Ils ont des milliers de milliards de dollars de dettes. Même la Chine commence à vendre les bons du trésor américain parce qu'ils perdent une valeur monumentale. Oui. Donc les Américains ont besoin de faire la guerre en Ukraine pour relancer leur industrie de l'armement, qui est vitale aux États-Unis, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, les États-Unis sont un pays qui s'est construit sur la guerre.
Exactement.
Sur l'idée de domination de l'autre. Donc c'est un pays qui a une économie qui repose de manière assez importante sur l'industrie de l'armement, que ce soit autant la fabrique d'uniformes que la fabrique de drones, d'avions, d'armes, de munitions. Oui. Et c'est une part très importante de leur revenu, de leur économie.
Merci.
Donc le pire cauchemar pour les États-Unis, c'est un monde en paix. Parce que d'une part, ils n'existeraient plus sur le plan diplomatique, puisqu'ils n'ont jamais été capables d'apporter une paix. Alors il ne faut pas me parler de la Pax Americana en Irak, on a vu ce que ça a donné. C'est un pays qui n'existe que dans la guerre, la vente d'armes, le financement des malheurs humains. Donc l'intérêt pour les États-Unis de prolonger cette guerre en Ukraine, c'est d'une part d'essayer d'affaiblir la Russie, éventuellement la Chine. Là, ils commencent de nouveau à ressouffler sur les braises de Taïwan. Mais on le voit, les Chinois, bon, ils ont aussi un aspect, une volonté de s'affirmer. Quand on étudie l'histoire chinoise attentivement, on comprend qu'ils ont une revanche à prendre sur les humiliations de leur colonisation par les Britanniques notamment. Mais les Chinois font plus d'accords de paix. On a parlé assez récemment de l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose dont sont incapables les Américains. Donc ils sentent que la situation leur échappe, et je vais conclure dessus. Là où les Américains prétendaient faire la paix alors qu'ils n'emportaient que la guerre et le malheur, les Chinois démontrent par les faits que la paix, ce ne sont pas les Américains, mais les autres qui la font.
Merci infiniment, maître, pour vos explications et vos précisions. Je pense que la connexion a été rétablie avec Luc Michel. Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Luc Michel, est-ce que vous nous entendez?
C'est combien ils ont payé le côté de
très bien. Donc, nous avons 2-3 minutes devant nous. Nous n'avons pas très bien entendu vos analyses au début de l'émission. Donc, si vous pourriez nous donner votre point de vue sur cette présence illégale, sur les objectifs poursuivis par les Américains à travers ces attaques et la suite des choses. Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense que la connexion aujourd'hui est très très mauvaise avec Bruxelles. On a des problèmes de connexion majeurs. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir l'analyse de Luc Michel. Mais Morgan Lotz est toujours avec nous, l'iranologue et juriste en droit international. Nous avons près de 2 minutes devant nous, maître. Et si vous avez une conclusion à faire à ce sujet, on vous entend.
Oui, ma conclusion sera très brève et je l'ai déjà exposée il y a quelque temps dans un autre débat sur Presse TV. Les Occidentaux doivent comprendre une chose, c'est que l'histoire a un sens et que les empires ne dominent jamais éternellement. Ça fait à peu près, on va dire, 200-300 ans que l'Occident est la première puissance dans le monde. Et aujourd'hui, ça prend fin, nous commençons à être au début de la fin. Mais c'est normal. Tous les grands empires, on peut penser au califat abbasside qui s'est effondré face à l'invasion des Mongols. On peut penser à l'Empire romain qui s'est effondré face alors à ce qu'on appelle encore aujourd'hui dans l'histoire, tel qu'on l'étudie en Europe, les barbares venus d'Asie. Donc les Francs, les Huns, les Visigoths notamment. Les Francs d'ailleurs qui vont fonder l'Empire des Francs qui va devenir la France. Tous les empires connaissent une apogée et connaissent un terme. Et les Occidentaux, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, je pense qu'ils ne veulent pas comprendre que c'est la fin et qu'aujourd'hui il va falloir composer avec un monde multipolaire. Le temps où l'on considérait les autres continents comme des excusez-moi le terme, mais des sous-développés, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Moi j'ai appris, quand j'étais collégien et lycéen, que l'Occident c'était le monde développé, le reste c'était le monde sous-développé. Alors c'est après ça. Ils ont appelé ça en voie de développement pour faire un peu moins... moins méchant. Donc on avait un monde séparé en deux, ça allait des États-Unis jusque l'Europe de l'Est à peu près, et ça faisait une virgule pour englober Israël. C'était ce qu'on avait sur les cartes au collège et au lycée. Moi ça m'avait toujours choqué. Donc il faut que les Occidentaux comprennent que la manière dont ils ont imposé des diktats au reste du monde, cette manière-là n'a plus cours aujourd'hui, elle est finie. Nous nous dirigeons vers un monde multipolaire. C'est le sens de l'histoire, il va falloir que les Occidentaux finissent par l'accepter tôt ou tard.
Merci infiniment. Alors pour cette émission, Morgan Lotz, iranologue et juriste en droit international, également Luc Michel, géopoliticien, a été avec nous. Malheureusement, la connexion n'était pas très bonne avec Bruxelles aujourd'hui. Merci à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat, de cette émission. Vous pourrez également revoir toutes les émissions, les informations sur notre site fraîche.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi soir 27 mars dans une interview avec la chaîne d'information Al Jazeera que les portes des négociations nucléaires ne resteront pas ouvertes à jamais. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré lundi soir qu'un plan avait été proposé au Parlement iranien pour fixer une échéance aux négociations nucléaires et que la porte des négociations ne resterait pas éternellement ouverte. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que l'Iran était engagé à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA. Amir Abdollahian a par ailleurs affirmé que le Qatar procédait toujours dans la bonne direction et qu'il avait joué un rôle constructif dans le domaine de l'échange de prisonniers et de l'accord nucléaire. Dimanche, M. Amir Abdollahian a eu une conversation téléphonique avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. C'était le deuxième appel téléphonique entre les deux hauts responsables en moins d'une semaine. Les deux parties ont discuté du dernier statut d'un récent accord entre Téhéran et Riyad pour relancer les relations. Dans un message publié lundi 27 mars sur son compte Twitter, Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'il s'était récemment entretenu avec de hauts diplomates de plusieurs pays et qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Sergei Lavrov à Moscou. Ces derniers jours, j'ai échangé des vues avec les ministres des Affaires étrangères d'Autriche, d'Australie, d'Oman, du Qatar, du Koweït, de Turquie, des Émirats arabes unis, de Suisse, du Pakistan, de Malaisie, d'Arabie saoudite, de Libye et de Syrie, a-t-il écrit. Je vais bientôt rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. Le gouvernement iranien actuel, dirigé par le président Ebrahim Raisi, poursuit une politique de réparation des divisions et de renforcement des relations avec les États voisins régionaux et transrégionaux. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que la République islamique ne connaissait aucune limite en matière d'expansion des relations avec les pays voisins. Ali Chabrani a fait ses remarques lors de sa rencontre du lundi 27 mars avec Mohamed Ben Abdelaziz Al-Khulaifi, vice-ministre des Affaires étrangères du Qatar, chargé des affaires régionales, qui se trouve actuellement à Téhéran. Dans le cadre de la diplomatie de voisinage poursuivie par l'administration du président iranien Raisi, le développement des coopérations avec les pays voisins est la priorité absolue de l'Iran dans les relations étrangères et nous ne fixons aucune limite à cet égard, a-t-il souligné. Saluant les efforts efficaces déployés par l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et son gouvernement pour aider à résoudre les problèmes régionaux et internationaux en coopération avec l'Iran, Ali Chabrani a déclaré que des relations fraternelles et constructives entre Téhéran et Doha peuvent servir de modèle général pour la promotion des liens avec d'autres pays de la région. Soulignant le niveau des relations entre les deux pays dans différents domaines, M. Chabrani a fait part de la nécessité de lever les obstacles existants afin d'améliorer les relations Téhéran-Doha dans plusieurs domaines, dont des coopérations commerciales, la mise en œuvre des projets d'infrastructure ainsi que les interactions politiques des deux pays. Le responsable qatari, pour sa part, a salué l'accord conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite début mars pour la reprise de leurs relations, le considérant comme une étape importante pour le renforcement de la stabilité et de la sécurité régionale. Al-Khulaifi a mis l'accent sur la promotion des échanges commerciaux entre le Qatar et l'Iran et la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Plus tôt lundi et avant sa rencontre avec M. Chabrani, il a tenu une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, plutôt axé sur les questions régionales et internationales. Des millions de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes et provinces yéménites pour marquer le 8e anniversaire de la guerre brutale menée par les Saoudiens contre ce pays arabe. Les manifestations massives ont été organisées dimanche 26 mars dans de nombreuses villes et provinces, dont la capitale Sanaa, mais aussi à Sada ou encore à Taiz. Les manifestants ont exigé la fin de l'agression militaire et du siège brutal de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. des pancartes et des slogans contre la politique américaine ont été brandis par les manifestants qui se sont rassemblés sur les principales places des villes pour dénoncer la guerre menée par l'Arabie saoudite et se permettre de poursuivre leur résistance contre les agresseurs. Les rassemblements ont eu lieu un jour après que le chef du mouvement de résistance yéménite, Abdul Malik al-Houssi, a appelé les yéménites à organiser de vastes manifestations pour marquer la 8e année de résistance. À Sanaa, un grand nombre d'habitants sont descendus dans les rues et ont scandé des slogans en faveur de la résistance contre les agresseurs, a rapporté la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Dans d'autres provinces, notamment Taïz, Adja, Al-Jawf et Al-Baïda, les gens se sont rassemblés sur les places principales pour démontrer leur résistance continue contre les agresseurs. Le membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohamed Ali Al-Houssi, a envoyé un message à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, soulignant que si elle avait l'intention de quitter le Yémen, la voie lui était ouverte. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a condamné l'expulsion forcée de fidèles musulmans de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan, affirmant que cette décision équivaut à une déclaration de guerre religieuse contre les Palestiniens et qu'elle constituerait une tentative de changer l'identité islamique d'Al-Aqsa. Le membre du bureau politique du Hamas à l'étranger, Sami Abu Zohri, a déclaré que l'expulsion forcée des fidèles musulmans de la mosquée Al-Aqsa constituerait une guerre religieuse contre le peuple palestinien, une tentative de changer l'identité islamique d'Al-Aqsa. Malgré les mesures strictes imposées au déplacement des citoyens pour se rendre à la mosquée, 50 000 fidèles palestiniens y ont effectué la prière de Tarawih, a-t-il dit dans un communiqué de presse, et de poursuivre. De telles mesures israéliennes ne constituent qu'une vaine tentative visant à empêcher les citoyens de se rendre à la mosquée, et ce malgré les mesures strictes mises en place par les autorités israéliennes. Ces mesures sont une tentative infructueuse de division spatiale et temporelle du lieu saint. Celui-ci a exhorté les Palestiniens à maintenir leur présence dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, tenant le régime fasciste israélien pour responsable des répercussions des attaques répétées contre les fidèles musulmans à la mosquée Al-Aqsa pendant le mois béni de Ramadan. Il a également sollicité les nations arabes et musulmanes à soutenir les fidèles palestiniens qui défendent la mosquée Al-Aqsa et a exhorté la communauté internationale à faire cesser les attaques israéliennes qui violent les droits religieux du peuple palestinien. Dimanche 26 mars, le grand mufti de Rots, le cheikh Mohammad Ahmad Hussein, a condamné la démarche de la police israélienne pour avoir expulsé de force des fidèles musulmans de la mosquée Al-Aqsa, qualifiant cette décision de grave violation des droits des musulmans. Dans la nuit de samedi à dimanche, un grand nombre de policiers israéliens ont pris d'assaut la salle de prière Al-Ribli de la mosquée Al-Aqsa et en ont expulsé de force les fidèles musulmans. Sous la pression croissante de violentes manifestations dans les territoires occupés d'Israël, le Premier ministre Netanyahou a accepté lundi de mettre en pause le processus d'adoption de la réforme de la justice en cours d'examen au Parlement. Selon un communiqué publié lundi 27 mars par le parti d'extrême droite, à l'issue d'une réunion entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Sécurité intérieure, le processus de discussion sur les réformes controversées sera retardé jusqu'au mois prochain. Ils ont également convenu de créer une nouvelle force rattachée au ministère de la Sécurité. Or, les manifestants israéliens jurent de rester sur place jusqu'à ce que la réforme judiciaire de Netanyahou soit abandonnée. Un des leaders des protestations israéliennes a promis que les manifestations se poursuivront dans les territoires occupés d'Israël, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé que le plan controversé de refonte du système judiciaire du régime sera reporté au mois prochain. Tant que la législation continuera et ne sera pas mise de côté, nous serons dans la rue, a déclaré Jikma Bresler, l'un des principaux dirigeants du mouvement de protestation après que Netanyahou a fait l'annonce dans un discours télévisé lundi 27 mars. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré « Nous n'avions jamais vu de menaces extérieures et de conflits internes d'une telle ampleur ». suite aux protestations contre les décisions du cabinet d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Une vague de grève a balayé la Palestine occupée. Dès lundi matin, aéroports, ports maritimes, compagnies aériennes, compagnies d'électricité, universités, cinémas, hôtels et grands magasins ont rejoint les grèves. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Thank you.